Alors, je vous invite à tourner à Matthieu chapitre 5. C'est quelque chose qui est connu. Matthieu chapitre 5, et on va voir qu'une première partie de ce texte, hein, ce matin, et Dieu voulant, la deuxième partie, dimanche prochain, si le Seigneur le dirige ainsi. Il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Prions. Notre Père céleste, tu as placé ce texte devant nous ce matin. Peut-être est-ce un rappel pour certains, peut-être est-ce une occasion de nous exhorter à nouveau à considérer ce que tu as pour nous, pour chacun de nous, jour après jour, et ainsi à te glorifier dans nos vies d'église, dans nos vies personnelles. Merci Seigneur de ta présence renouvelée ce matin. Amen. En fait, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 1 à 12, il y a le Seigneur, le roi, qui parle de son royaume. Et dans les 12 premiers versets, il nous parle des caractéristiques du royaume. Hein ? C'est le sermon sur la montagne, les béatitudes et les traits de caractère de celui qui fait partie de son royaume. Ensuite, du verset 13 à 16, il nous fait part de ce que sont les fonctions des citoyens de ce royaume, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et ensuite, du verset 17 au verset 48, au chapitre 5, nous avons les nouveaux standards du royaume que Dieu établit, comparés à la loi de Moïse. Cela pour donner un petit peu le contexte de ce passage. Mais dans ce passage ici, il est question de deux paraboles, le sel de la terre, la lumière du monde. Vous savez, en Matthieu 13, il y a plusieurs paraboles et les disciples du Seigneur avaient du mal à comprendre les paraboles. Et il faut reconnaître que nous aussi. Si Jésus n'avait pas pris le temps d'expliquer les paraboles de Matthieu 13 et même la parabole du semeur qui nous semble assez évidente après l'explication du Seigneur, on a du mal à comprendre les paraboles. Et donc on doit essayer de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette façon pédagogique d'apporter des vérités. Quels sont les sens de ces deux paraboles et quel est le but de ces deux paraboles ? Eh bien, quand on lit le texte ici, on est finalement enseigné par le but de ces deux paraboles que l'on trouve ici au verset 16, « Afin qu'ils voient, le sel, la terre, la lumière, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc la question ce matin est la suivante, « Est-ce que votre vie glorifie Dieu qui est dans les cieux ?» Est-ce que votre vie fait qu'elle parle assez fort pour que les gens voient, parce que vous êtes croyants, que vous êtes dans des bonnes œuvres et que les gens ont envie de connaître ce que vous vivez? Autrement dit, est-ce que notre vie parle assez fortement dans le Seigneur pour attirer l'attention des autres, parce que les autres sont perdus? Vous savez, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui vont passer chez vous malgré leurs ailes et discuter après avoir essayé d'ouvrir les portes, et si vous leur ouvrez les portes, discuter des heures. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui sont les enfants du royaume de Dieu, même s'ils ont du zèle. Et vous allez pouvoir les écouter, ils vont peut-être vous prêcher, entre guillemets, à le royaume, hein, dans leur façon de faire. Et vous allez être assuré qu'après 4 heures de discussion, si vous devenez témoin de Jéhovah, vous n'aurez aucune assurance. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils ont du zèle, mais ils ne présentent pas Jésus-Christ. Ils ne sont pas le sel, la terre et la lumière du monde. Et dans ce monde actuel, il y a je ne sais plus combien de milliers de religions, mais ceux qui apportent le sel, ou ceux qui sont le sel, la terre et la lumière du monde, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous jouons le rôle, ou est-ce que nous sommes en train de faire, ou d'être plutôt, ce que le Seigneur demande d'être? En fait, il ne nous donne pas le choix. Il n'a pas dit, eh bien, écoutez, maintenant que vous me connaissez, essayez donc d'être le sel, la terre, la lumière du monde. Essayez, je vais vous aider un petit peu, on va voir si ça marche. Pas du tout dit-il ça. Il a dit avec autorité, vous êtes le sel, la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire que ce sont les enfants de Dieu qui sont le sel de la terre et la lumière du monde et que ce ne sont pas les autres. En fait, Dieu nous déclare ce que nous sommes et ce que nous devrions être. La question est la suivante, est-ce que nous sommes vraiment le sel, la terre, la lumière du monde, et est-ce que notre vie glorifie notre Dieu et attire les autres à glorifier notre Dieu? Si notre témoignage est glorieux, parce que Dieu agit dans nos vies, alors les autres auront envie de goûter ce que nous goûtons. Si notre vie chrétienne, j'allais dire, est triste ou défaite, bon, tout le monde passe par des épreuves, mais n'attire pas les autres, eh bien les autres ne viendront pas au Seigneur. Bien sûr que Dieu a promis d'attirer tous les hommes à lui, mais c'est dans la mesure où les enfants de Dieu sont le sel, la terre et la lumière du monde que les hommes vont glorifier Dieu et aussi être utilisés ainsi par le Seigneur à porter la bonne nouvelle. Bien sûr que Dieu peut se passer de nous pour attirer les hommes à lui et les sauver. Mais il nous a déclaré que nous serions ses témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut faire de nous ses témoins. Alors est-ce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ? La Bible dit donc ici, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Vous allez te dire, mais moi, mon voisin, c'est bien, c'est un bon croyant. Il est vraiment le sel, la terre, la lumière du monde. Je pense que Dieu peut l'utiliser, mais moi... Non, Dieu ne fait pas exception de personne. Si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible déclare, et c'est Jésus-Christ, avec toute autorité, qui déclare, tu es le sel de la terre. C'est pas un message qui s'adresse à notre voisin, c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, parce que Dieu nous demande d'être ce qu'il veut que nous soyons. Donc, voilà, arrêtons nos excuses. On a tous des excuses pour ne pas être ce que Dieu veut nous demande d'être. Peut-être avons-nous besoin d'apprendre que, oui, nous avons besoin de nous soumettre à cette parole et être conscient que Dieu veut m'utiliser. Il y a une petite fille qui me vient à l'esprit, j'ai oublié son nom, c'est pas Mary Jones, qui au Pays de Galles a eu à cœur que la Bible soit diffusée. Et c'était une époque où la Bible était très chère, c'était pas aussi imprimé facilement que maintenant. On a des Bibles maintenant à 1,50 €, je vous le signale. Je ne fais pas la publicité, mais vous ne privez pas de Bibles et achetez des Bibles même pour les distribuer aux autres si vous voulez. C'est extraordinaire. Et cette jeune fille de 14 ans, si ma mémoire est bonne, est allée voir un pasteur pour le supplier de lui donner sa Bible. À un prix modeste. Elle avait économisé pendant je ne sais plus combien de temps. Elle a amené toute sa tirelire, toutes ses économies pour pouvoir acheter une Bible. Et ce pasteur a été tellement bouleversé de voir la soif de cette jeune fille face à la parole de Dieu qu'il a eu à cœur l'impression de la parole de Dieu. Vous savez que la société biblique est née comme ça. La société biblique est née dans un fardeau de faire connaître la parole de Dieu. Et c'est né dans le cœur d'une petite fille qui avait soif de Dieu, qui voulait connaître Dieu. Ainsi, nous avons besoin de savoir que Dieu veut nous utiliser. On ne sait jamais comment Dieu peut nous utiliser. Il y a deux femmes sœurs, qui priaient pour Moody à l'école dimanche, qui priaient que Moody soit un homme de Dieu, utilisé par Dieu. Mais Moody a été utilisé par Dieu de façon extraordinaire. Il a amené des milliers de gens au Seigneur. Il a été l'évangéliste que Dieu voulait qu'il soit. Et nous, à dire on n'est peut-être pas Moody, on n'est peut-être pas Billy Graham, on n'est peut-être pas des hommes connus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ce que Dieu nous demande d'être, là où nous sommes. Attention, frères et sœurs, aux excuses. Deuxièmement, il est écrit « vous êtes », donc c'est au temps présent. Moi, on rencontre parfois des gens qui disent « ah oui, il y a 10 ans, j'ai amené quelqu'un au Seigneur ». Mais aujourd'hui, ça devrait être la même flamme. Aujourd'hui, on devrait aussi être le sel de la terre. On n'a pas besoin de regarder toujours au passé, ou peut-être en pensant à l'avenir que oui, on devrait l'être, parce que Dieu va nous changer ou quelque chose va se passer. Peut-être on attend un coup de baguette magique. Vous savez, les chrétiens, on aime bien penser tout d'un coup, voilà, le coup de baguette magique qui nous transforme. Mais Dieu a tout un processus pour nos vies, notamment par la lecture des Écritures, l'enseignement des Écritures et l'obéissance aux Écritures. En fait, les Israélites avaient la manne. Ils prenaient la manne, ils la mangeaient, et Dieu leur a joué un tour. Hein. Vous savez lequel hein. C'est qu'il fallait qu'ils aillent tous les jours prendre la manne. Puis tous les jours, elle était fraîche. Et puis le samedi, ils devaient se reposer. Et puis la manne, par miracle, était bonne pour 2 jours. Alors que s'ils essayaient, par crainte du souci de lendemain, d'emmagasiner, allez, on emmagasine cette manne pour en faire du pain et prévoir l'avenir, eh bien, elle était plus bonne à manger. Alors, l'avenir, c'est une chose qu'on doit donner à Dieu, mais parfois, on ne pense pas à être ce que nous sommes, là où Dieu nous a placés. Enfin, c'est simple ce que je vous dis là, mais c'est subtil, parce que l'ennemi nous fait croire, ou il nous fait regarder à le passé, ou il veut nous faire voir dans l'avenir, mais c'est là où nous nous trouvons que nous sommes celle à terre. Vous êtes dans un bureau, eh bien, vous êtes peut-être le seul croyant, alors vous êtes le seul sel de la terre. Vous êtes dans une école, vous êtes au lycée, vous êtes au collège, vous êtes à l'université, vous êtes dans une entreprise, peu importe votre travail, peu importe là où vous allez acheter le pain, faire le plein d'essence, vous êtes le sel de la terre, il n'y en a pas d'autre. Vous avez pensé à ça? Vous êtes le sel de la terre et c'est le moment présent, donc ça veut dire que c'est tous les jours. C'est tous les jours que Dieu veut qu'on soit le sel de la terre. C'est merveilleux cela, que Dieu veut nous utiliser. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Il fait de nous des ambassadeurs pour Christ. C'est merveilleux cela, des ambassadeurs pour Christ. Et puis il nous parle du sel. Alors qu'est-ce que ça signifie? Vous avez déjà trop salé un petit peu, quel est votre problème, votre première chose que vous allez faire? C'est de boire immédiatement. Hein. Et puis le sel donne soif. Mais aussi, quand on pense que les aliments sont fades, on sale parce qu'on veut donner goût aux aliments. Donc le sel donne goût aux aliments. Et qui plus est, c'est paradoxal tout ça, mais le sel conserve les aliments. À une certaine époque où il n'y avait pas de frigo, etc., on mettait du sel pour garder les aliments, pour les conserver. Et même à l'époque de Jésus-Christ, le sel servait comme monnaie d'échange, comme valeur. Il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas de pièces, c'était une valeur d'échange. Mais retenons que le sel donne soif, que le sel donne goût aux aliments et que le sel conserve les aliments. Donc on va y venir à tout cela avec des applications pratiques. Mais la Bible dit, vous êtes le sel, la terre. Ça me fait penser à une chose toute simple. Vous allez dire, mais c'est simple ce message. Oui, mais est-ce que nous le vivons? C'est pas au ciel qu'on va être le sel, la terre, parce qu'on sera au ciel. C'est maintenant que nous sommes sur la terre que nous devons être ce que Dieu nous demande d'être. C'est notre champ de mission, la terre. Et Dieu nous appelle à être des missionnaires. Il n'y en a pas d'autre que nous, frères et sœurs. Dieu nous appelle tous à être des missionnaires, à être le sel de la terre, là où il nous a placés en attendant son retour, mais nous sommes le sel de la terre, il n'y en a pas d'autre. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ici, si vous avez remarqué le texte, si vous revenez avec moi dans le texte, au verset 13, il dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est possible qu'un sel perde sa saveur? Pas exactement. Mais à l'époque de Jésus-Christ, et je suppose que ça existe encore, il y avait un sel qui finalement n'était pas un vrai sel, qui perdait sous l'influence de l'humidité sa capacité de saler, sa salinité. Et pourtant c'était un sel qui semblait être composé aussi de cristaux analogues au chlorure de sodium, qui est le sel, mais étant mal purifié, il n'avait aucune puissance assaisonnante. Finalement, c'était une mauvaise monnaie, c'était une fausse monnaie. Comme maintenant, on dirait, tiens, il y a un faux billet. Ce sel servait à rien. On l'utilisait pour les aliments, ça ne donnait aucun goût. C'était un faux sel. Et ça me fait penser à une chose, c'est que parfois, ceux qui ne sont pas le sel de la terre devraient se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment un sel qui a été purifié par Jésus-Christ pour justement rendre témoignage à Dieu ? Parce que c'est par l'esprit de vérité de Jésus-Christ qu'on peut rendre témoignage de Jésus-Christ. Seuls ceux qui sont sauvés nés de nouveau peuvent témoigner par la puissance du Saint-Esprit de leur nouvelle naissance et que leur cœur a été purifié et qui donne goût aux autres à vivre. Et donc, on devrait se poser la question, si notre témoignage ne porte pas de fruits, est-ce que nous sommes vraiment un vrai fruit du Seigneur ? Parce que, malheureusement, et je le dis en général, vous comprenez cela, on peut se nommer chrétien et même faire partie d'une église dite chrétienne et ne pas être chrétien. Ne pas être né de nouveau, ne pas connaître Jésus-Christ, et donc ne pas pouvoir être le sel de la terre. Oh, on peut représenter la religion. Il y a beaucoup de gens qui présentent des religions, mais qui ne présentent pas Jésus-Christ. Et en fait, être le sel de la terre, c'est présenter la vie de Christ en soi. C'est merveilleux cela, quel programme. Et Dieu dit, mais faites-le, soyez-le, parce que c'est ce que vous êtes. On n'a pas besoin de se forcer de l'être. Par contre, on doit demeurer en Christ, en communion avec lui, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors j'ai noté aussi une autre remarque, si vous me permettez, c'est qu'il y a toutes sortes de sel. Parce que dans le témoignage, il y a différentes façons pour les croyants de témoigner, puis d'être le sel, hein, de donner envie aux autres. Il y a le sel, j'ai fait une petite recherche, on trouve le sel à l'état de roche. On trouve du sel mélangé à des argiles, on trouve le sel en solution dans l'eau de mer, vous avez compris l'idée, c'est que Dieu, alors c'est une application que je fais, en fait, si nous sommes le sel de la terre, on est issu différents, on est issu chacun de différents milieux, de gènes, hein, d'hérédité différentes, nos personnalités sont différentes, mais ce qui est magnifique, quand on est le sel de la terre, c'est que Dieu nous emploie. Oh, moi je ne suis pas assez instruit pour être utilisé par Dieu. C'est une excuse, ça. Je suis trop instruit, les gens ne me comprennent pas. Ben, c'est une excuse aussi. Ou ça pourrait l'être. Et ainsi de suite. Si vraiment on est le sel, peu importe notre personnalité, qu'on soit timide ou qu'on soit un extraverti extraordinaire, Dieu peut nous utiliser, chacun de nous. Parce que quand on est le sel, on donne envie aux autres. Et c'est des témoignages parfois très simples qui touchent les cœurs. J'ai déjà donné cette anecdote, elle me vient à l'esprit, mais je crois qu'elle est tellement belle. Une petite fille, vous avez certainement entendu parler du pasteur Van Brandt, qui est resté 14 ans en prison en Roumanie parce qu'il était devenu chrétien après avoir été un athée convaincu. Une dame dans un village priait qu'avant de mourir, elle ait la joie d'amener quelqu'un au Seigneur. Et cet homme l'a rencontré et s'est converti. Et il est devenu tellement croyant et zélé que dans ce monde communiste de cette époque-là, on l'a mis en prison. Et cet homme raconte des témoignages ensuite dans ses livres de gens persécutés. Il raconte l'histoire d'une petite fille dont les parents avaient été mis en prison et qui avait été persécutée, qui avait un bourreau. Et cette jeune fille avait été enseignée par ses parents dans la Bible qu'il fallait aimer ses ennemis. Et dans son cœur de jeune fille, mais croyante, elle a appliqué littéralement la parole de Christ. Elle a fait un beau bouquet de fleurs, c'est ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait faire de mieux. Elle est allée voir le bourreau de ses parents, qui était le geôlier de ses parents, qui avait les clés de la porte de la prison de ses parents. Elle dit, vous savez, mes parents sont là, mais sachez une chose, que je vous pardonne, je vous aime. Une toute petite fille a fait ça. Le geôlier a été tellement bouleversé de ce témoignage, qui s'est lui-même converti et qui, après coup, d'après ce que j'ai lu, s'est retrouvé lui-même en prison à cause de sa foi. La puissance de l'amour. Mais ce sel, est-ce que vous l'utilisez dans votre vie ? Est-ce que vous avez le sel de l'amour ? Est-ce que vous avez le sel de la joie ? Est-ce que vous avez le sel de la paix ? Est-ce que dans nos vies quotidiennes, il y a une différence ? Oui, il est différent. c'est pas parce qu'il est plus beau, plus intelligent ou plus riche ou peu importe, c'est parce qu'il a le Christ. C'est ça qui compte. C'est que les gens voient le Christ en nous. Oh, laissons vivre le Christ. Il nous aime et Dieu au des cieux, et parce que Christ est en nous, nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit, il veut rayonner, il veut briller à la gloire de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors peu importe, nous avons été tirés, le sel a peut-être été mélangé, etc. Nos personnalités sont différentes, mais chaque personne peut être le sel de la terre, une fois qu'elle est devenue croyante, et être utilisée par Dieu. C'est merveilleux cela. Hein? Vous ne trouvez pas? C'est une bonne nouvelle parce que ça s'adresse à chacun de nous. C'est bon pour chacun de nous. Alors est-ce que vous allez être le sel de la terre cette semaine? J'aimerais faire les applications suivantes maintenant, pour terminer le message. Comment appliquer cette parabole donc aux croyants? Premièrement, se demander si on est un vrai croyant. Hein, on en a parlé déjà. Deuxièmement, si le croyant est comparé à du sel, c'est quoi le sel? Eh bien, je vous le lis, en Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, il est écrit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » C'est profond cela. La sagesse, la façon de parler dans ce monde qui fait que les gens disent oui, il est différent. Il voit la vie d'une façon différente. Le chrétien, oh, il peut ne pas être riche, il peut être faible, il peut être malade, mais dans ces circonstances de sa vie, il a une sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse qui est précieuse. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, si vous lisez le livre des Proverbes, lisez le livre des Proverbes, il est question de la sagesse personnifiée qui est Jésus-Christ. Mais ce sont les enseignements de Dieu qui montrent si le croyant vit dans les voies de Dieu ou non. C'est la différence dans les Proverbes entre la voie de la sagesse et la voie de la folie. Si tu es un croyant qui marche selon les instructions de Dieu, tu es dans ce chemin de la sagesse. Et le monde a tellement besoin de sagesse. Vous regardez les hommes politiques, vous regardez le monde du sport, vous regardez tout ce qui se passe dans le monde et des stars et de ce monde. Et parfois on peut se demander, mais où est la sagesse? Un croyant qui a l'Esprit de Dieu, qui vient de naître au Seigneur, il est déjà rempli de la sagesse de Christ. Et s'il cultive l'obéissance aux Écritures et donc la connaissance des Écritures, il aura une sagesse. Il y a des enfants, mes amis, parce qu'ils sont croyants, élevés peut-être dans des familles chrétiennes, qui sont déjà beaucoup plus sages que des adultes qui terminent leur vie. La sagesse ne dépend pas de l'âge. On dit, ah, la sagesse, c'est les cheveux blancs. Bon, en tout cas, moi, je m'en serais passé des cheveux blancs, mais pas de la sagesse. La sagesse ne dépend pas de l'âge. La sagesse, c'est d'être avec Christ. C'est merveilleux, là. Vous manquez de sagesse? Moi, j'en manque, hein. Eh bien, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec Dieu, sans douter, elle lui sera donnée. Il y a des circonstances où on est dans de telles impasses que le chemin semble tellement étroit, mais Dieu aime bien nous attendre comme ça, dans nos impasses, parce que si on cultive et exerce notre foi, il a une façon de nous faire vivre qui est la sagesse de Dieu. Est-ce que ça vous arrive en tant que croyant de donner des conseils à des gens qui vivent autour de vous, peut-être qu'ils connaissent pas le Seigneur, mais qui vont être surpris par les conseils que vous allez leur donner, parce que ça va être des conseils pleins de sagesse, de bon sens, de vie, de savoir-vivre. Regardez les couples aujourd'hui. Combien de couples résistent au divorce? 1 sur 2 en France. Vous croyez pas que les enfants de divorcés ont parfois des difficultés, les familles, alors Dieu recompose des familles par sa grâce parfois, mais il y a des luttes dans la famille aujourd'hui. Où est la sagesse de Dieu par rapport à la famille? Où est la sagesse de Dieu? Et là, il y a tout un témoignage à avoir par le fait qu'une famille chrétienne peut honorer et glorifier Dieu et trancher avec le courant de ce monde qui est justement la folie de ce monde, et ça se voit dans la famille, ça se voit sur le plan matériel, ça se voit dans la façon d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, c'est une petite réflexion, excusez-moi, mais on peut se poser beaucoup de questions de la façon avec laquelle les enfants sont élevés dans le monde. une telle facilité de matérialisme, d'égocentrisme, de centrer sur soi, les enfants qui viennent le centre de tout dans les familles. Mais attendez, c'est pas comme ça qu'on élève les enfants. La famille de Dieu fait une différence. Je me souviens d'un témoignage d'un jeune homme avec qui j'étais enfant. On habitait un quartier de Toulouse. Et un jour, j'ai rencontré, je venais de me convertir, une dame. Chose extraordinaire, le Seigneur fait des hasards quand même. Cette dame travaillait à la préfecture et travaillait dans le même bureau que les parents de mon ancien ami d'enfance. Et mon ami d'enfance, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Ah oui, il y a une dame aussi, comme toi, qui se dit chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle est joyeuse au bureau ?» Je dis « Tiens, et je pourrais vous donner son nom, elle fréquente une église ici à Toulouse encore. Voilà la joie du Seigneur au bureau. Elle ne critiquait pas ses collègues. Elle était positive, elle cherchait à arranger les problèmes des autres, elle était aimée. Et dans son travail, elle était respectée parce qu'elle était le sel de la terre. Alors dans votre travail, on peut critiquer, on peut maugréer, on peut murmurer. Tiens, le murmure à Israël, ils en ont pas mal eu. Ou on peut construire, on peut donner envie aux autres, on peut avoir une sagesse que les autres remarquent et disent « Ah oui, il n'est pas comme les autres. » D'ailleurs, je crois que le croyant, notamment dans le milieu du travail, devrait être rapidement reconnu comme étant différent des autres. Son langage, l'honnêteté, la franchise, la résolution des conflits, etc. On pourrait parler beaucoup de cela. Mais comment est-ce que le monde va découvrir les choses spirituelles ? Vous savez, les gens qui se disent chrétiens, ils ont présenté la foi des fois avec une épée. Les croisés, ils sont arrivés en conquête, ils ont dit « Où tu crois, ou on te tue ?» L'acte d'autodafé. « Où tu crois, ou on te tue ?» Vous croyez que ça donne envie de devenir croyant, ça ? Surtout que les pommeaux des épées étaient en forme de croix. Au nom de Christ, où tu crois, ou on te tue ? Ça fait frémir, mais c'est des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ont fait cela. Ça donne envie de devenir croyant, cela ? Comme dire au Québec, pantoute, pas du tout. C'est pas possible, cela. Et pourtant, ça a existé, et ça existe encore. Ça existe encore. Mais la paix du croyant, sa joie, sa tranquillité d'esprit, sa paix et son amour font que les autres, un jour, lorsqu'ils rencontrent un croyant, s'ils sont sensibles, attirés par Dieu, ils disent « Moi, j'ai envie d'avoir ce qu'a cette personne. » Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré le couple qui m'a amené au Seigneur, en fait, j'ai vu dans leurs yeux, je ne pouvais pas le définir, mais j'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas et que je désirais. Et après une première rencontre, alors que je ne les connaissais presque pas, je leur ai raconté ma vie. Et il y avait des nœuds et des problèmes, etc. Et ils m'ont conseillé, ils m'ont entouré à cause de leur amour et persévérance, parce que, ouf, qu'est-ce que j'étais résistant. Ils sont venus à bout de ma résistance et de mon orgueil. Et finalement, ils m'ont présenté l'évangile. Et j'ai dit, ils ont quelque chose, ces gens-là. Ils ont quelque chose. J'ai envie d'avoir ce qu'ils ont. Ils ont l'amour. Ils ont l'amour. Ils savent écouter. Ils savent conseiller. Ils ont l'amour. Donc j'ai envie d'être comme eux. Vous savez, le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être aimé, c'est de pouvoir aimer selon Dieu. Une plus grande richesse. Moi, je trouve ça, c'est la beauté du Seigneur, ça. C'est d'aimer dans l'amour du Seigneur. Vous n'avez pas envie d'aimer, vous ? Moi, je trouve que c'est une passion, l'amour de Christ. D'aimer les autres avec l'amour de Christ. C'est extraordinaire, cela. Les gens ont besoin de cela. Et quand le croyant est plein d'amour, mais il attire les autres à son Seigneur, parce qu'il fait une différence, et les gens en ont tellement, tellement besoin. Alors, il n'y a pas que le sel de l'amour, le sel de la joie, il y a le sel de la sainteté. La Bible dit on est le sel à terre. Le sel conserve. Le croyant doit prendre position. D'ailleurs, il y a un verset, je vous le dis rapidement, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, qui dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Plusieurs exégètes de la Bible pensent ici qu'il s'agit du Saint-Esprit, mentionné ici, qui retient la corruption du monde. Le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette, à la voix de l'ange, quand l'Église va être enlevée, l'Église partant, la présence du Saint-Esprit sur la terre va partir avec les croyants, et le monde va être livré au chaos diabolique. Il faut comprendre cela. Et ceux qui vont saisir cela, ils vont payer leur vie, leur foi. parce qu'ils vont être sous le règne de l'Antichrist, ils vont devoir payer leur vie, de leur vie. Ce qui le retient, l'Antichrist, c'est la vie du Saint-Esprit dans l'Église. Je suis convaincu, en tout cas, de cette vérité biblique ici. La vie du croyant, écoutez-moi bien, retient l'immoralité dans ce monde. Si l'Église cesse d'être sainte, la corruption va immerger le monde. Si Dieu n'avait pas un regard sur ce monde, le monde serait pire qu'il est dans tous les domaines. L'immoralité, la perversion sexuelle, l'occultisme. Si Dieu n'était pas présent par l'Église, son Église, ses enfants, et bien sûr sa présence au travers de ses enfants, le monde irait dans une corruption terrible. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous devez faire face au péché? Vous êtes dans un bureau, il y a des blagues impures qui vous sont données. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans un bureau, quelqu'un affiche une photo pornographique. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans un bureau, vous entendez quelqu'un parler mal des autres. Qu'est-ce que vous faites? Je me souviens d'un missionnaire, je crois que notre frère Pierre le connaît, John Stoffacher. Il nous a raconté ça alors que j'étais à l'école biblique. Il allait acheter son journal tous les jours dans une tabagie, un bureau de tabac. Et à un moment donné, il voit sur les étagères apporter de la main, donc apporter des enfants, des livres pornographiques. La colère sainte, je m'entends, du Seigneur n'a fait qu'un tour en lui. Il a dit, « Monsieur, si vous enlevez pas ces livres de vos étagères, d'abord je ne viendrai plus acheter des livres chez vous et mon journal, mais je vais prier que vous fassiez faillite. » Piou, il vous dit, il était mu par une sainte colère. Savez-vous quoi? Le magasin a fermé. C'est pas des blagues, hein. Le magasin a fermé. Je me souviens d'un frère, j'aimais beaucoup ce frère, j'ai beaucoup appris de lui, beaucoup appris. Un ouvrier dans une usine multinationale à Québec, pâte à papier. Un homme de foi qui avait été malade, qui avait eu la maladie d'Hodgkin, qui a été opéré, je sais pas, 10 ou 12 fois. Un jour, il est venu me voir, il était diacre de l'église, il me dit, voilà, il avait une grosseur ici. Il me dit, voilà, le chirurgien doit m'opérer. Et puis, il m'a averti, il y a au moins 50% de chances que je reste paralysé. Il a dit, je dois le faire, je vais y aller par la foi. Il a été opéré le lendemain, à Québec, en restant dans l'hôpital. Il dirigeait les cantiques, un homme de foi. Un homme humble, un homme de foi. Et alors, il était dans un milieu parfois très dur, avec des ouvriers parfois, hein, enfin dans ce milieu-là, pour lui, qui avait un vocabulaire très cru, etc. Et lui, en tant que chrétien, il était très sensible. C'est un homme qui avait été abandonné par ses parents, qui avait découvert le Seigneur, qui aimait tellement le Seigneur. Enfin, une vie vraiment transformée par la puissance de Dieu. Et un jour, quelqu'un est venu alors qu'il mangeait. Il avait l'habitude de prendre son casse-croûte, hein, tous les jours, entre midi, enfin, ils ont une heure ou trois quarts d'heure, il sort sa boîte à lunch, c'est comme ça qu'on dit au Québec, il commence à manger, puis il lit la Bible. Puis il y avait ses collègues, mais lui, c'était son témoignage, tous les jours à midi, il faisait son culte, ou il faisait enfin une partie de son culte, là, parce qu'il considérait que c'était normal de lire la parole, et de se nourrir la parole, et de se nourrir son corps, jusqu'à ce qu'un de ses collègues amène une grande photo pornographique dans l'endroit, la cantine où il mangeait. S'est levé, il l'a déchiré devant lui. Comme ça, il a pris position. L'autre dit, un peu costaud, et tu veux te battre? Le chrétien lui a dit, allons-y, mais tu garderas pas cette photo. Savez-vous quoi? Que l'autre a été bouleversé, même s'il a réagi, etc. Mais je voudrais vous dire, tout simplement, ces deux exemples que j'ai donnés, qui sont venus à l'esprit, est-ce qu'on prend position contre le péché? Ou est-ce qu'on fait des compromis? Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Qu'est-ce qu'on entend dans nos oreilles? Qu'est-ce qu'on voit de nos yeux? Quel comportement acceptons-nous dans nos vies qui n'est pas correct? Dieu voit dans la vie du croyant toutes ses pensées, toutes ses paroles. Moi, je trouve qu'un des obstacles à l'évangélisation, c'est le manque de sainteté dans nos vies. Et on est des obstacles sans le savoir. Ou peut-être, enfin, Dieu est miséricordieux, mais soyons saints. Vous serez saints car je suis saint. Si nous sommes saints, nous sommes le sel de la terre parce que nous apportons le sel de la sainteté. Il faut que les gens, frères et sœurs, qui nous voient vivre aient envie de vivre ce que nous vivons. Parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Et si, là où nous nous trouvons, nous ne sommes pas en train de rayonner le Christ, On parlera de la lumière et d'être le sel, la terre, qui donne soif aux gens de connaître ce que nous vivons, qui donne goût à la vie. Si le sel de Christ est en nous, on a une vie différente et les autres ont envie de goûter ce que nous goûtons. Ils ont envie de manger les mêmes plats spirituels que nous. Et si notre vie est sainte, on conserve le monde de l'immoralité, alors les gens vont dire « ils sont différents ». Voyez comme ils s'aiment, ça c'est vrai, mais ils sont différents. Là où nous nous trouvons, vous ne pouvez être que le sel, la terre. C'est ce que Christ vous demande et c'est ce qu'il déclare que vous êtes. Alors, frères et sœurs, soyons simplement ce qu'il nous déclare que nous sommes réellement. Et c'est lui qui le déclare et donc il va le faire au travers de nous, par sa grâce, d'être le sel de la terre en attendant qu'il revienne. Et combien j'ai hâte que le Seigneur Jésus revienne. Pas vous ? C'est certainement le meilleur pour nous, le meilleur pour tout, mais en attendant, on a une vocation sur la terre, d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Prions, s'il vous plaît. Ô notre Père céleste, nous sommes faibles, mais tu es fort. Tu es un Dieu tellement saint, tellement sensible au péché, mais plein d'amour et de miséricorde. Et t'as trouvé bon de faire de tes enfants une église, une communauté qui te glorifie, que tu appelles à la sainteté, que tu appelles à la vie pleine d'amour, de paix et de joie, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédicité, c'est la bienveillance, la maîtrise de soi. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, de dépendre de toi, pour que jour après jour, nous soyons ce que tu veux que nous soyons et ce que tu déclares que nous sommes, le sel de la terre. Et cela est vrai pour chacun de nous et aujourd'hui. Merci de ce privilège que nous avons, Seigneur Jésus, de te connaître. Où serions-nous aujourd'hui sans ta grâce dans nos vies ? Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour dans nos vies. Amen.